Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Deuxième volet ce matin de notre série sur les territoires sans ménagement. Aujourd'hui, on visite le parc national des Calanques. C'est immense la vue qu'on a d'ici, Mona Jourdan.
Et oui, c'est très haut. C'est la plus haute falaise. Et ça, c'est le synclinal du Bossé. À la fin de la dernière glaciation, où l'eau elle a recommencé à monter, c'était tellement creusé de grosses cavités que là, déjà, il y avait des hommes préhistoriques et l'eau, elle se trouvait à 40 mètres plus bas que ce qu'il y a le niveau maintenant. Donc, c'était très, très, très déchiqueté, encore plus déchiqueté que maintenant. Il y avait beaucoup de grottes et de trous. Je me rappelle, on allait pêcher des poulpes sous l'île.
Il y avait des... Là, c'est plus la préhistoire, c'est votre enfance.
Oui. Eh bien, dans ces grottes qui existaient de ce travail de l'érosion, on y allait parce qu'il y avait des poulpes gigantesques. Bon. Mais ici, c'est vraiment beau. Nous, quand on était jeunes, on n'appréciait pas la beauté de ce paysage parce qu'on le voyait tous les jours. On savait que c'était beau, on venait, mais on n'en parlait pas entre nous. Après, il est venu des gens d'ailleurs dire « Attention, attention, c'est beau, il faut le protéger. » Et on a créé toutes les choses qu'il fallait pour le protéger.
Quoi, par exemple ?
Eh bien, de créer un parc, de créer les choses qu'on fait, comme Natura 2000, tout ça. Mais pour nous, c'était beau et ça devait être respecté parce que c'était beau et qu'on ne voyait pas ça ailleurs. Même si on va à la Sainte-Baume, même si on va dans d'autres coins, dans les Calanques, les gens qui sont nés ici, qui n'ont jamais bougé, ils sont habitués à cette beauté. C'est après, quand le temps a passé, que les gens ont compris que c'est vraiment exceptionnel ici. Vraiment exceptionnel.
Dans ma petite Calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite Calanque, chaque dimanche on est nombreux. Tous en famille, dans le qui scintille, on fait des ours. Puis on se planque, une rousse tapée, tapée sous les grands pins. On va dormir un brin dans ma petite Calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite Calanque, coquin de soir, on est heureux.
Françoise De Geer, vous êtes journaliste, vous écrivez dans différentes publications, les blogs du Monde, le journal de Nature et Progrès, Reporter. Vous vous intéressez depuis assez longtemps aux parcs nationaux, et en particulier au parc national des Calanques, qui a été inauguré en 2012. Autant dire que vous avez été évidemment alerté lorsqu'il y a eu cet épisode à la rentrée 2014, là, il y a, au mois de septembre, quand on a appris que l'usine Alteo de Gardanne, ex-Pechiney, ex-Rio Tinto, donc une usine d'aluminium en vérité, d'alumine, demandait à ce qu'on prolonge son autorisation d'émission de résidus dans la mer Méditerranée pour encore 30 ans. Vous avez été alerté parce que, vous le saviez, cette autorisation devait prendre fin en 2015. C'était une autorisation qui avait été accordée à l'usine à la fin des années 90. Autant dire qu'ils avaient eu le temps tout de même de se retourner, comme on peut dire. C'est vraiment une affaire étrange et surtout, l'auditeur attentif aura remarqué que j'ai commencé en parlant de parc national, le parc national des Calanques, et qu'immédiatement après, il est question de boue rouge. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ?
Disons que le vote du conseil d'administration du parc national ne m'a pas du tout étonnée, parce que je savais très bien depuis longtemps que les parcs nationaux ne servaient pas à protéger la nature, contrairement à ce qu'on peut en dire. Je m'étais intéressée à ce problème de l'usine Alteo maintenant, qui ne fait plus d'aluminium mais qui fait de l'alumine. Maintenant, ce n'est plus de la bauxite qui vient de la région de Provence, mais c'est de la bauxite qui vient de Guinée, donc ça a un peu une autre teneur. Mais ça ne change rien au process, c'est-à-dire à la manière de fabriquer cette alumine, où on emploie, là ils emploient de la soude, il y a deux manières si j'ai bien compris, il y a la soude et l'acide, là on emploie de la soude. Que ce soit de la soude ou de l'acide, il en reste après des boues rouges, parce qu'il y a une forte teneur en fer, d'oxyde de fer dans ce matériau qui vient de Guinée ou qui venait avant de Provence. Ça crée énormément de déchets. Le problème, c'est de savoir où mettre les déchets. Or, l'usine de Gardanne, qui est située à une cinquantaine de kilomètres de La Ciotat, disons du bord de la mer, a obtenu dans les années 60, lorsque Péchinet dirigeait cette entreprise, et que Péchinet faisait un peu ce qu'il voulait, les pouvoirs publics ne faisaient qu'entériner des décisions de Péchinet, pour des raisons d'économie, de déverser les boues en mer. Pour des raisons d'économie. Parce qu'ils avaient déversé, il y avait déjà un stock de boues rouges sur le site de Manjgari, enfin à côté de, pas très loin de l'usine, et ils disaient que ce stock allait être saturé, ce qui est vrai. Ils ne voulaient pas investir dans l'achat d'autres terrains pour stocker les boues, parce que le foncier coûte cher. Et donc, le problème est identique aujourd'hui. Donc, on a envoyé, depuis les années 60, pendant plus de 50 ans, je crois, à la fois les boues rouges et les effluents liquides. Donc, tout le matériau qui résulte du process industriel.
Donc, une vieille histoire, vous le dites vous-même. Une histoire, d'ailleurs, qui a connu de multiples péripéties et rebondissements. Vous pouvez peut-être évoquer la visite du commandant Cousteau dans les années 60.
Disons que pour faire accepter le rejet des boues rouges en mer, ça n'a pas été une histoire simple parce qu'il y avait quand même à l'époque, beaucoup plus que maintenant, des pêcheurs côtiers qui étaient assez remontés. Et puis le maire de Cassis aussi à l'époque, je ne sais pas pour des raisons politiques dans ce milieu-là, était aussi très remonté contre le rejet des boues rouges au large de Cassis, dans la fosse de Cassidagne. Donc il y a eu une forte mobilisation. Et pour faire accepter ça, Péchinet a fait intervenir Havas, l'agence Havas de communication, qui a fait appel au commandant Cousteau, lequel a rédigé un rapport sur les boues rouges pour dire grosso modo que tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Le commandant Cousteau, qui allait même faire des démonstrations auprès des pêcheurs, ça c'est ce que m'ont dit les pêcheurs de Cassis et de la Ciotat, c'est assez connu, il allait faire des démonstrations pour dire, vous voyez, on met des boues rouges dans un bocal, les poissons ne meurent pas, donc tout va bien, voilà. Il y a une forte propagande en faveur de ces rejets en mer. Et la propagande perdure aujourd'hui en changeant un peu le vocabulaire, en disant que ce sont des rejets inertes. Ce qui est absolument incroyable, c'est que ce sont des scientifiques qui disent ça. Comme l'autorité scientifique du parc, la présidente du parc, qui est Madame Denise Bellan-Santini, qui ne cesse de dire partout que les rejets sont inertes. Or, j'ai essayé d'avoir une définition du terme d'inerte. Inerte, c'était le terme de communication de Havas. Parce que Havas a recherché une terminologie qui ne fasse pas peur aux habitants. Donc ça a été un terme de communicant. C'est aussi un terme scientifique qui dit, grosso modo, il n'y aura pas trop d'impact sur le vivant. Or, je viens d'apprendre récemment, en ayant contacté des chercheurs de l'INERIS, que les boues rouges en question, ou la bauxaline, même puisque maintenant on a trouvé un terme commercial pour ces boues rouges, n'était pas si inerte que ça, parce qu'elle est très basique. Basique, ça veut dire qu'il y a encore de la soude. C'est quelque chose qui ronge. C'est comme la chaux vive, c'est comme la soude, c'est comme les milieux alcalins. Et que donc, c'est pas génial pour le vivant. Donc, ça n'est pas inerte. On ne peut pas qualifier les boues rouges de inertes. Voilà. Et je ne comprends pas que des scientifiques, comme Madame Bellan-Santini, de résidus, de rejets inertes.
On comprend encore moins, Françoise de Gers, qu'un projet de parc national ait pu voir le jour précisément à l'endroit où sont rejetées ces fameuses boues dites rejets inertes.
Alors, le projet de parc national des Calanques, qui remonte, ils en avaient parlé dans les années 70, Dominique Voynet a mis un coup d'accélérateur dans les années 90, et puis, en 2000, a été créé le JIP, le groupement d'intérêt, pour créer le parc, pour essayer de monter une charte. Tout ça en application, ensuite en appliquant la loi de 2006 qui a été adoptée et qui intègre, si vous voulez, les standards internationaux de l'Union internationale de conservation de la nature sur les parcs nationaux. C'était étonnant parce que les gens du pays disent... On a fait un parc national dans une poubelle. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont étonnantes. C'est que d'abord, ce parc national a la caractéristique d'être quasiment un parc urbain. Il y a quand même plus d'un million d'habitants dans la région, dans la zone. Deuxième chose, il a trois problèmes de pollution énormes. Donc il y a les boues rouges, d'une part, qui sont déversées dans la fosse de Cassidagne. Il y a le rejet de l'Uvaune, vous savez, c'est une rivière qui ramasse toutes les eaux de pluie, les eaux pluviales, le moindre orage, qui se déverse au large de Marseille et qui interdit la baignade sur les plages du Prado à chaque fois qu'il y a un orage. Et il y a l'émissaire qui collecte les eaux usées de Marseille, bon, qui ont été traitées en amont, mais qui ne sont pas totalement traitées. Elles sont traitées peut-être à 80%, mais il reste 20% réellement à traiter. D'ailleurs, il y a une pétition en cours en ce moment pour qu'il y ait l'installation d'une autre station, vraiment plus près de la mer, pour traiter les 20% restants. Donc, effectivement, ce parc, malgré la beauté du site, a été construit dans une poubelle.
Poubelle maritime, Françoise de Germes, mais également poubelle terrestre.
Alors là, nous allons nous diriger vers la décharge du Mentor. Je vais vous amener par le haut, puisque tous les accès par derrière sont interdits depuis nos investigations, si je puis dire, assez fréquentes pour voir l'état des lieux concernant la réhabilitation des boues rouges. Hein, donc, parce qu'il y a un cahier des charges très strict que l'agglo d'Aubagne ne respecte pas. Donc nous sommes régulièrement sur le site. Et je vais là vous montrer comment en ce moment donc cette décharge est recouverte. Et surtout l'événement nouveau, c'est qu'ils veulent la réouvrir. Réouvrir la décharge qui était censée être fermée à vie.
Mais Béatrice de Creuset, c'est donc une décharge qui n'était plus en activité?
Depuis un an, non. Le préfet l'avait fermée. Parce qu'elle était soi-disant pleine, hein, c'est comme ça qu'on fait dans les décharges. Mais il faut savoir que là, ils ont pris la décision de la réouvrir. Suite à l'intervention de Madame Ségolène Royal, qui a sommé l'usine Alteo de ne plus déverser en mer, donc les rejets solides ont toujours été déversés sur terre. Dans notre décharge. Donc je pense que là, qu'est-ce qu'on va faire des boues rouges? C'est la bonne question. Donc je pense qu'ils réouvrent aussi la décharge pour pouvoir restocker les boues rouges.
Finalement, elle n'est pas si pleine.
Ils s'en servent de couverture, de protection. Alors ils disent que la boxaline est imperméable. Mais ce n'est pas vrai, puisque toutes les eaux par forte pluie continuent de descendre derrière dans le vallon des Jades, où il y a des abreuvoirs, parce que les chasseurs y vont, ils donnent de l'eau à boire aux animaux hein, l'été. Hein. Donc là, il a été vu dernièrement de l'eau qui ruisselait encore. Donc,
elle n'est pas de l'eau rouge
Oui, de l'eau rouge, malheureusement.
Parce que la boxaline, c'est en fait une sorte de
résidu. La boxaline, c'est la déshydratation des boues rouges, tout simplement. Vous allez vous approcher. Oh bon, on a un petit sentier là. Vous voyez d'ailleurs, vous avez encore des résidus de boue rouge là qui ne sont pas recouverts. Tout ça, c'était rempli de boue rouge.
Tout ça, c'est une véritable colline en fait. Ça fait penser au terril du Nord.
Donc vous voyez tous ces rigoles, toute cette tuyauterie censée évacuer les biogaz qui sont récupérés par je ne sais où, là-bas, par en bas, là on est vu, là on va signaler, donc il faut faire vite. Toute cette couverture, la plastifier, c'est pour faire tomber l'eau, d'accord, par ces tuyauteries, pour évacuer les biogaz et l'eau rouge suite aux fortes pluies. Il faut savoir que nous sommes à un dénivelé de la Ciotat est là-bas.
En contrebas.
C'est-à-dire que
on est au-dessus
comme nous
de la Ciotat,
en hauteur,
ouais.
Plein vent, parce que nous sommes une région à vent, vous le savez, Mistral.
Le Mistral, oui.
Donc, toutes les fines particules s'envolent à droite, à gauche, et il fut un temps, quand ce n'était pas recouvert, tous les arbres étaient rouges et périssaient.
Françoise de Germes, c'est pendant le processus de consultation publique qui devait mener à la création du parc que les associations locales, menées entre autres par Béatrice de Creuset, que nous venons d'entendre, ont révélé que ces fameuses boues rouges n'étaient pas seulement rejetées en mer dans une fosse dite très profonde et qui donc était censée noyer dans les abysses le problème, mais également sur terre et de manière tout à fait visible. Vous avez vous-même pu prendre des photos assez spectaculaires de petites montagnes de poussière rouge exactement à l'entrée de la ville de la Ciotat.
Oui, ces boues ont été entreposées dans la décharge du Mentor, qui est sur la colline, à 200 mètres à peu près d'altitude, et qui surplombe à la fois la Ciotat et Cassis. Donc c'est vraiment dans la colline, c'est une espèce de plateau. Elles ont été entreposées là, sous couvert de servir de couverture aux ordures ménagères de la décharge du Mentor. Bon voilà, c'est ce qu'ils appellent la valorisation des boues rouges. Si vous voulez, l'usine Alteo fait plusieurs choses à la sortie lorsque le traitement du matériau, de la bauxite, est fait et qu'il y a des boues rouges qui ressortent de l'usine. D'abord, ils commencent par lessiver les boues rouges pour essayer de récupérer de la soude. Non pas pour protéger l'environnement, mais surtout parce que ça l'intéresse de récupérer cette soude pour la réinjecter, pour la recycler. Ça lui évite de repayer de la soude. Ensuite, pour essayer d'obéir, disons, aux consignes de la Convention de Barcelone qui interdit ce genre de rejet en mer depuis les années 90 et qui a donné des étapes à franchir à l'industrie pour cesser le rejet des boues rouges en mer, elle a donné cette étape au 31 décembre 2015, l'usine a procédé par paliers. Donc elle a commencé par enlever un certain nombre de boues. Les autres continuent toujours à aller en mer, mais par essayer de les mettre sur terre. Et elle a chargé pas mal de décharges municipales. Il y a 6 décharges qui ont été entreposées les boues rouges, dont Entre-Sens, la fameuse décharge d'Entre-Sens, où ce stockage a été cessé parce que il y avait trop de radioactivité. Et donc là, ensuite, on a vu les gens de la Ciotat ont découvert par hasard, je crois que ce sont des chasseurs qui ont découvert ça en premier, ils ont découvert des tas de boues rouges dans la décharge du Mentor. Ils ont alerté à ce moment-là le comité écologique de la Ciotat, Béatrice de Crozet. Apparemment, la municipalité de la Ciotat n'était même pas au courant qu'il y avait des déversements de déchets, on peut dire industriels, mais on n'appelle pas ça déchets industriels, on appelle ça déchets d'activité économique non dangereux.
La décharge du Mentor, c'est une décharge de déchets ménagers.
Oui, c'est une décharge de déchets ménagers. Il paraît qu'il y a une partie de déchets industriels, mais très petite, mais c'est une décharge de déchets ménagers qui est gérée par l'agglomération d'Aubagne.
Comment est-ce que les promoteurs du parc national des Calanques ont réagi à cette époque-là, puisqu'ils ont appris cela avant l'ouverture du parc?
Je ne sais pas s'ils l'ont appris avant. C'était en 2012, je crois bien. Je ne sais pas.
C'était peut-être juste au moment de l'ouverture.
Oui, non, le parc était créé quand ils l'ont appris. Et c'était Danielle Millon qui était présidente à cette époque-là. Et Danielle Millon s'est élevée contre ces boues rouges, mais elle s'est élevée surtout contre les boues rouges, les rejets en mer. Mais le parc national n'a rien dit sur les rejets qui étaient déversés sur la décharge du Mentor. Ce qui s'est passé aussi, c'est que José Bové, Michel Rivasi, un certain nombre d'associations écologistes sont venus dans une calanque à Cassis pour faire une conférence de presse pour dire en 2012 ou 2013 qu'il fallait cesser absolument le rejet des boues rouges en mer. Et Béatrice de Crozet avait saisi l'occasion pour aller avec des photos montrer qu'il y avait aussi des boues rouges sur terre. Et personne n'en parlait, ni des boues rouges sur le Mentor, ni à Entre-Sens. Tout le monde ignorait ce problème de boues rouges qui avaient été entreposées dans des décharges d'ordures ménagères.
Donc, vous le dites, la présidente de l'époque du parc a réagi et s'est insurgée.
Pas vraiment insurgée. Le parc était divisé parce que il y avait toujours Denise Bellansantini qui est la présidente du conseil scientifique du parc, qui répétait tout le temps que c'était des déchets inertes et qu'il n'y avait pas de problème.
Alors justement, c'est là que je voulais vous amener, Françoise De Gers. Il y a bien un comité scientifique au sein de ce parc. Il y a également un comité scientifique dans les différentes usines qui se sont succédées, enfin les différents noms qui se sont succédés pour cette usine d'alumine. Là, le discours est qu'il n'y a aucun problème.
Alors, du côté du comité scientifique de suivi, qui est en fait un service environnement de l'usine, qui a été créé en 1996, si je me souviens bien, et qui est présidé par Jean-Claude Dauvin, qui est un scientifique qui est en Normandie, ce comité scientifique de suivi a toujours dit qu'il n'y avait aucun problème. Les études qui montreraient qu'il y avait quelques problèmes, c'était des études qui avaient été réalisées sur les oursins en mer, à l'époque par l'IFREMER. Ces études sont restées confidentielles. En 1991-1992, impossible de mettre la main dessus.
Yves Lancelot, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Vous avez été professeur des universités, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint des programmes d'océanographie du CNRS. Dans ce cadre, vous vous étiez occupé de la demande de renouvellement d'autorisation d'occupation du domaine maritime, demande déposée par Péchiné dans les années 90.
Alors, d'abord, je voudrais rectifier un certain nombre de choses. Ce n'est pas exactement dans le cadre de mes fonctions que j'ai eu à m'occuper du problème.
Pardon, d'accord.
C'est à la demande du maire de Cassis. À l'époque, j'étais à Cassis, je vivais à Cassis à cette époque-là, et le maire de Cassis était un ami. Et il m'avait demandé de regarder ça, parce qu'il avait été alerté par des pêcheurs, par des écologistes, etc. Mais c'est là où, au même moment, Péchiney m'avait contacté, vraiment dans les mêmes jours, pour me demander de venir les voir, et il voulait m'embaucher pour faire aussi une analyse des travaux qui avaient été menés par Éphrémère, et aussi de leur donner un avis, sous-entendu de surtout essayer de les conforter dans l'idée qu'il n'y avait pas de danger.
C'était une position délicate.
Oui, oui, oui. Alors, j'ai tout de suite dit à Péchiney qu'il n'était pas question que je travaille pour eux, puisque je venais d'être embauché parce que tout ça était bénévole, mais enfin, Péchiney n'aurait pas été bénévole. Mais disons que mon travail pour la mairie de Cassis était par amitié pour le maire, et puis parce que je me sentais concerné par un problème qui m'apparaissait assez délicat et douloureux. Donc j'ai décliné l'offre de Péchiney, mais ils m'ont laissé quand même le rapport de Créocéan, mais avec un engagement de non-divulgation d'une durée de 10 ans.
Alors ce rapport de Créocéan avait été fait sous l'égide de l'IFREMER, c'est ça ?
Oui, c'est ça, parce que le Créocéan est une filiale de l'IFREMER. Mais il avait été fait à la demande de Péchiney, parce que Péchiney voulait savoir s'il pouvait donc renouveler, s'il avait des chances d'arriver à renouveler leur demande d'occupation du domaine maritime.
Et ce rapport les exonérait effectivement de toute difficulté ?
Non, pas du tout. J'ai découvert, moi, dans ce rapport, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qui étaient dangereuses. Ce rapport, j'en ai fait une analyse, que j'ai d'ailleurs diffusée en 1996 assez largement à beaucoup de gens. Je ne pouvais pas diffuser le rapport lui-même, puisque je m'étais engagé à ne pas le faire, même si je n'avais pas signé aucun engagement avec Péchiney. Mais je ne tenais pas trop à le faire. Mais par contre, j'ai fait une analyse et j'ai diffusé les résultats de mon analyse qui montraient qu'il y avait un danger, que d'abord les données obtenues étaient notoirement insuffisantes, et puis en plus qu'il y avait un danger écotoxicologique, puisque des chercheurs italiens d'ailleurs avaient montré qu'il y avait un effet sur la faune qui était visible, sur 3 espèces d'oursins en particulier, et sur une espèce d'huître. Ça n'a pas été plus loin que ça à l'époque.
Quel type d'effet, Yves Lancelot ?
L'effet, c'était un arrêt de l'embryogenèse, un arrêt de la spermiogenèse sur les oursins, et un arrêt du développement des coquilles sur les huîtres. Ça, c'était quand même important, d'autant plus que c'était sur les oursins, il a été démontré que c'était un effet qui pouvait se transmettre de génération en génération et que donc ça pouvait être assez définitif. Personne n'y a prêté une très grande attention, sauf la ministre de l'époque, qui était Corinne Lepage. Elle a obtenu un arrêt complet des rejets de borouge dans le tuyau de Cassis à fin 2015, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et une diminution régulière de la quantité de rejets, qui est effectivement passée de 1 million de tonnes par an au début 90 jusqu'à à peu près 180 000 tonnes par an en ce moment.
Alors, vous dites que les rejets ont largement diminué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'ils ne sont plus du tout toxiques ?
Non, le fait qu'ils aient diminué ne les rend pas moins toxiques. Je vais vous dire pourquoi, c'est que même s'il y avait encore moins de déchets rejetés en quantité, en absolu, Le problème, c'est que vous avez d'abord ces boues rouges, elles ont une granulométrie extrêmement fine, donc c'est des choses qui peuvent se déplacer très facilement. Et surtout, ce qui a été démontré par les études du Créocéan, c'est que la partie la plus toxique, ce sont les particules les plus fines. Ces particules fines se séparent des particules plus lourdes, plus grosses, et se diffusent dans la nature jusque dans le golfe de Fos et même plus loin, même jusqu'en Espagne. Peu importe donc la quantité qu'il y a au départ, il y en aura toujours. Ce qui compte, c'est les effets cumulatifs de cette pollution qui nous sont totalement inconnus.
Alors, Yves Lancelot, comment est-ce que vous accueillez la demande aujourd'hui par l'usine Alteo de nouveau prolonger de 20 ans l'autorisation de continuer à émettre des...
Alors, maintenant, la situation a changé complètement. C'est-à-dire que, d'abord, on a créé le parc national des Calanques en 2012.
Vous faites partie du conseil d'administration.
C'est ça. Je suis un des administrateurs. Et on nous a demandé, c'est ça qui change beaucoup de choses, on nous a demandé récemment de nous prononcer sur la prolongation de l'utilisation du tuyau et sur donc le continuer le rejet sous une forme différente. Alors bon, on a eu toute une discussion assez musclée. Personnellement, je suis intervenu contre la prolongation du rejet de ces eaux, même si ce ne sont plus les boues rouges, mais ce sont des eaux, parce que les produits toxiques se trouvent justement dans les particules fines et aussi dans les eaux qui sont séparées des boues rouges solides. Et le conseil scientifique du parc, qui est aussi indépendant, disons, en principe, lui avait fait des tas de remarques contre le rejet, mais avait donné un avis favorable, ce qui n'arrangeait pas les choses. Donc on a voté et on a eu 16 voix contre et 30 voix pour la prolongation d'utilisation du tuyau. Ça m'a énormément choqué, je ne vous cache pas que j'étais vraiment furieux. Et on en était là quand le ministère a réagi, c'est-à-dire la ministre Ségolène Royal, deux jours après notre réunion, a publié un Twitter disant que ce conseil ne pouvait donner qu'un avis et qu'elle n'était pas prête à suivre cet avis. Que dans l'état actuel des choses, elle tenait à faire une expertise encore plus indépendante et qu'elle ne prendrait sa décision qu'après. Et en fait, elle a aussi après fait un communiqué de presse que vous avez peut-être vu, où elle dit qu'elle demande trois choses à Alteo, qui a remplacé Rio Tinto. Elle dit, voilà, il faut que vous arrêtiez tout rejet avant 2015 et qu'on fasse une expertise effectivement séparée par le BRGM et que la demande d'autorisation de rejet liquide ne sera pas accordée en l'état, malgré l'avis du conseil d'administration, car il faut viser un objectif zéro rejet d'arsenic et de métaux lourds en mer. Parce que le gros problème, c'est que dans la demande de prolongation, l'industriel demande aussi une dérogation à la loi de 1996, qui est en même temps d'ailleurs dans la suite du protocole de Barcelone de 1976. Et cette dérogation porte sur le dépassement des
seuils autorisés. Oui.
Voilà. Alors c'est un dépassement, pour l'arsenic c'est assez énorme, c'est de l'ordre de 35 fois la norme, pour le pH c'est de l'ordre d'une dizaine ou une douzaine de fois, etc.
Donc les élus locaux, on a le sentiment qu'ils ont été tout de même assez peu consultés dans toute cette affaire.
Très peu consultés, puis il faut dire aussi que au départ les élus locaux, vous savez, ils ont accepté qu'on crée le parc national en traînant les pieds, mais vraiment traînant les pieds, à part peut-être la mairie de Cassis, mais la mairie de Marseille et la mairie de La Ciotat étaient plutôt contre. Alors ils n'ont pas été vraiment contre, ils ont traîné les pieds, quoi. Mais ils ont fini par accepter. Et là, d'un seul coup, ce qui mobilise la mairie de La Ciotat, c'est qu'on prévoit de réouvrir la décharge du Mentor. Et ça les fait réagir parce que la décharge du Mentor avait été fermée et qu'elle pose des tas de problèmes pour l'environnement local.
Quelle fin est-ce que vous voyez qui serait une fin honorable à toute cette affaire?
Oh, la seule fin honorable, ce serait d'arrêter tout rejet. Et de dire on n'autorisera les rejets que lorsque ils respecteront les normes de la loi de 1996. Clair, net, ni plus ni moins. Et si on ne fait pas ça, on va forcément à des demi-mesures et qui peuvent être à long terme sur 50 ans, absolument catastrophique. Alors on a dit, ah mais si, on va surveiller, le parc a dit, mais on a mis des conditions drastiques pour que l'industriel assure une surveillance accrue, fasse des recherches sur des solutions techniques différentes, etc. Ça, à mon avis, honnêtement, je pense que c'est du pipeau. La seule chose à faire, c'est de tout arrêter.
Françoise De Geer, on s'est étonné au début de cet entretien qu'il y a eu la décision de créer un parc national sur un lieu tout de même assez dégradé, même si, comme vous le dites, il reste d'une beauté spectaculaire. Les calanques sont effectivement très belles, Cassis, les calanques de Marseille, La Ciotat, ce sont des très beaux endroits. On peut s'étonner encore plus de ce que aujourd'hui, en 2014, lorsqu'il est question de prolonger de 30 ans ces émissions de boue rouge, le parc accepte, sans broncher, de prolonger de 15 ans, alors qu'il était question d'arrêter définitivement, en décembre 2015, cette situation.
Alors, c'est assez marrant parce que le parc, là, est un peu en train de faire de l'équilibre sur un fil. Je me souviens très bien, il y avait une espèce de rumeur politique quand il y a eu avant la création du parc, disons, le parc va régler tous les problèmes de pollution. Cela dit, j'ai eu Didier Réau depuis au téléphone.
Didier Réau,
c'est le président actuel du parc. Je lui ai rappelé, il m'a dit non, on n'a pas vendu le parc en disant qu'il n'y aurait plus de pollution. On est en conformité avec la loi, on ne va pas retirer les activités économiques, et puis de toute façon, l'usine de Gardanne n'est pas dans le parc, etc. Bon. C'est l'idée du développement durable. Moi, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de consensus dans cette région, droite, gauche, milieu, tout ce que vous voulez, pour ne pas toucher à l'usine de Gardanne. Je ne sais pas pourquoi. Pechiney, c'était une sorte de fleuron. L'usine de Gardanne, c'est un fleuron. On ne veut pas y toucher. On ne veut pas dire même que... Peut-être que les gens qui y travaillent, les ouvriers qui y travaillent, sont peut-être dans des emplois toxiques. Je ne sais pas. On ne sait rien. Et si vous voulez, c'est vrai que le parc ne résoudra rien, bon, parce qu'il n'a peut-être pas les moyens, mais ce n'était pas l'objectif principal du parc, hein, de résoudre le problème des pollutions. Ça ne peut pas l'être. Et d'ailleurs, le décret de création du parc de 2012 évacue tout à fait le problème, dans son article 22, le problème du rejet des boues rouges. L'interdiction de déposer, d'abandonner ou jeter en un lieu public ou privé, etc., des ordures, déchets, matériaux et tout autre objet de quelque nature que ce soit, etc., cette interdiction n'est pas applicable aux résidus de traitement de bauxite issus de l'exploitation de l'usine d'aluminium située à Gardanne et qui sont rejetés dans le camion de la Cassidaigne. Voilà. Donc le décret lui-même
exonère les boues rouges.
Exonère le rejet des boues rouges. Alors effectivement, l'association des amis de la Rade et des Calanques qui a essayé de dire que cet article 22 n'était pas conforme aux enjeux d'un parc national, ils se sont fait retoquer par le Conseil d'État. Le 29 octobre 2013, voilà, par un arrêt du Conseil d'État, en disant que la réglementation qui s'applique aux différentes installations rejetant des résidus de leur activité dans le parc national des Calanques ne s'applique pas, en l'occurrence, puisque l'usine de Gardanne est située en dehors du parc. Voilà.
De fait, les autorités du parc soulignent volontiers quelles sont les héritières de cette histoire industrielle. Il y a même des déclarations qui laissent entendre que si on avait commencé cette activité pendant l'existence du parc, bien entendu, le parc aurait réagi, aurait refusé. Mais là, il s'agit d'un héritage et non pas d'une nouvelle activité. C'est d'autant plus curieux que la demande de prolongation d'autorisation concerne une activité dite nouvelle de la part d'Alteo, qui affirme qu'il ne s'agit plus du tout de la bauxite d'avant et des boues rouges d'avant, mais d'un nouveau produit, en quelque sorte. Donc, de fait, l'héritage à la vie dure. Mais je voudrais peut-être maintenant, Françoise De Geer, qu'on s'interroge plus largement sur les parcs nationaux et sur l'étrange légalité qui règne au sein de ces parcs. On est presque soulagé d'apprendre qu'une usine peut continuer à envoyer des rejets polluants quand on pense à l'inquiétude qui est très partagée de voir les parcs interdire toute activité économique aux habitants, soumettre toutes ces activités, que ce soit de la chasse, de la pêche, de la cueillette, de l'agriculture, à une autorisation du parc. Et là, on s'aperçoit que finalement, non, c'est quand même relativement facile de poursuivre une activité, pourtant pas exactement bonne pour l'environnement.
Ben, les parcs nationaux, traditionnellement, qu'ils aient été conçus au XIXe siècle, que ce soit aux États-Unis, dans les colonies britanniques, françaises en particulier, ont toujours eu les mêmes caractéristiques. Ça a été l'accaparement des territoires au profit, en l'occurrence, des colons. Et en Europe, ils y sont allés quand même un peu plus doucement quand il y a eu les premières créations de parcs nationaux dans les années 60. Ça, d'abord, ils ont créé des parcs nationaux, surtout, il y a eu 6 parcs nationaux créés dans les zones de montagne, où il n'y avait pas trop de monde. C'était souvent à l'instigation du club alpin français, des alpinistes, des montagnards, des amoureux de la montagne, etc. Donc ils ont créé quelques parcs nationaux en zone de montagne, mais qui n'avaient pas la rigueur des parcs nationaux coloniaux. C'est-à-dire qu'on n'évacuait pas les populations au besoin, le cœur de parc était quand même très réduit.
Qu'est-ce qu'on appelle le cœur de parc ? Il faut préciser ça.
Le cœur de parc, c'est la zone où tout est interdit. Pour la conservation de la nature.
Donc interdit de cueillir, interdit...
Oui, absolument, tout est interdit, ça devient, on verra après, un produit touristique.
Donc vous le disiez, sur le territoire européen et français, les cœurs de parc étaient très réduits, il s'agissait...
Ils étaient très réduits, et il y avait ce qu'on appelait les communes périphériques autour, qui pouvaient adhérer ou pas à la zone cœur, je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs, et très souvent n'ont pas adhéré.
C'était leur libre choix.
C'était leur libre choix. Non pas adhérer, parce qu'elles voyaient que tout était interdit, que les aides financières qu'elles pouvaient espérer pour compenser les interdictions d'activité ne sont jamais arrivées. C'est le cas du parc national des Pyrénées. Et donc, c'est resté très, très limité. Et à partir de ce moment-là, fin des années 90, l'UICN...
C'est-à-dire l'Union internationale de conservation de la nature ?
Oui. A dit qu'il fallait développer partout dans le monde des aires protégées, des réserves, etc. Et s'est occupé particulièrement du cas français en étant à l'instigation d'une réforme des parcs nationaux. Et d'ailleurs en faisant un sacré lobbying auprès des parlementaires. C'est ce que l'UICN reconnaît lui-même, qu'ils ont fait énormément de lobbying auprès des parlementaires. Ils ont préparé cette loi qui a été adoptée en 2006. Et là, la nouveauté, tout simplement, c'est que les communes qui étaient autrefois périphériques, viennent dans une zone d'adhésion, elles doivent obéir à une charte, et cette charte correspond quasiment en tout point à la réglementation du cœur. C'est-à-dire que là, disons que les habitants, les élus, se font harakiri en disant on adopte la charte et on va dans la zone d'adhésion du parc, et voilà.
Vous dites se font harakiri, c'est quand même une expression assez forte, Françoise de Gère. De quelle manière est-ce qu'ils se font harakiri ? D'abord, est-ce que ça concerne véritablement des territoires très étendus ? Et puis, qu'est-ce que ça implique pour ces communes qui n'ont plus la liberté de choix, mais qui se retrouvent de fait appartenir au parc ?
D'abord, le premier résultat de cette réforme, c'est que la superficie des parcs nationaux a été multipliée par 10.
C'est pas mal.
Simplement. Voilà. Il y a eu un forcing terrible auprès des communes, un chantage pour qu'elles rentrent dans la charte, une charte qui devait être approuvée par le Conseil national de protection de la nature et qui donc devait répondre à des règles strictes de protection de la nature. Si vous voulez, l'ambiguïté, c'est qu'ils présentent cette loi de 2006 en disant que les élus ont le pouvoir de gérer leur territoire. Oui, mais selon une charte dont les directives sont décidées ailleurs. Les communes ne sont plus gestionnaires de leur territoire.
Et qui a préséance sur les décisions communales.
Absolument. C'est le directeur du parc qui a préséance sur les décisions communales. Le directeur est nommé par le ministre.
Dans quel domaine est-ce que cette préséance s'exerce ?
En cœur de parc, c'est dans tout. Enfin, disons que les communes n'ont plus aucun droit, ni leur droit de police, ni le droit d'urbanisme. Qu'est-ce qu'il y a ? Activité, n'en parlons pas. Dans les zones d'adhésion, c'est un peu plus mitigé. Il faut être dans la continuité de la réglementation du parc. Donc on y va progressivement, quoi. Des saisissements des pouvoirs de police, des saisissements des pouvoirs d'urbanisme du maire.
Françoise de Gère, on peut penser que c'est pour la bonne cause, entre guillemets, puisqu'il s'agit de protéger la nature. Et de fait, ces dispositions peuvent permettre de lutter contre un envahissement massif des constructions, de la spéculation immobilière. Enfin, on peut imaginer que ça irait dans le bon sens. C'est vrai que l'exemple de ce qui se passe dans le parc des Calanques suscite l'inquiétude. On se demande tout à coup si véritablement les dispositions qui ont été votées lors de la loi de 2006, sont employés à bon escient.
Ça ne protège pas la nature pour plusieurs raisons. D'abord, si on prend l'exemple de l'Afrique, les parcs nationaux sont devenus maintenant des réserves pour la criminalité. C'est-à-dire que ça permet aux plus grands criminels de la Terre de venir se servir en cornes de rhinocéros, en cornes d'éléphants pour alimenter le trafic d'armes.
C'est paradoxal, non? Dans les lieux les plus protégés?
Ben oui, mais vous voyez, c'est une hécatombe des animaux. Ce ne sont pas les populations qui ont tué ces animaux, ce sont des trafiquants. Ça devient des réservoirs, au point que l'Afrique du Sud a décidé, par exemple, d'enlever tous ces rhinocéros du parc de Kruger et d'essayer de les mettre en clandestinité dans d'autres réserves un peu plus éloignées, parce que c'est ingérable. Ça devient une guerre. Ça devient des enjeux guerriers, les parcs nationaux. Voilà. En Afrique. Quand on regarde maintenant chez nous, je regarde le cas du Mercantour, par exemple. Le cas du Mercantour, il y avait une biodiversité très préservée, avec l'élevage bovin, avec l'élevage ovin, les prairies, la montagne était préservée, elle était entretenue naturellement par cet élevage traditionnel, qui donne d'ailleurs une viande de qualité, un lait de qualité, qui fournit des produits de qualité. Le parc national du Mercantour fait tout actuellement pour virer les éleveurs du parc. Et j'ai appris que la moitié des estives, donc des prairies entretenues par les bêtes domestiques, les animaux domestiques, avaient été supprimées en grande partie sous la pression du parc et sous une autre pression qui est là aussi idéologique, c'est la pression du loup, du prédateur du loup qui... Par cette idéologie très conservationniste, on conserve le loup, on le protège et on n'a plus le droit quasiment de préserver ces animaux domestiques.
Si on revient au parc des Calanques, Françoise de Gère, est-ce qu'il y a eu également des difficultés pour la population locale du fait de la création de ce parc ?
Ah ben, le parc s'est surtout manifesté par des interdictions. Interdiction de la pêche familiale. Bon, alors évidemment, il y avait les pêcheurs aussi qui disaient oui, la pêche familiale nous fait concurrence. Donc le parc a joué là-dessus, sur la concurrence entre pêcheurs côtiers, pêche familiale. Il y a aussi des contraintes qui ont été imposées sur terre, sur le droit de cueillette traditionnel, sur le droit de chasse, sur le droit de. Bon, même si le droit de chasse a été préservé, par exemple, en cœur du parc national des Calanques. C'est que je crois qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que là, ça aurait été complètement... Je crois que les élus auraient sauté pour de bon, là. Mais sinon, oui, il y a toutes sortes d'interdictions. Et là, les gens commencent à s'en rendre compte. Il y a des gardes qui viennent, bon, qui viennent pour conseiller les touristes, mais qui viennent surtout pour verbaliser. Et apparemment, les amendes ont plu l'année dernière. Donc, ça commence à grincer, là. Si les gens n'avaient pas compris... Ce qui était un parc, là, il commence à le comprendre et à dire ça ne va pas, quoi. Ce ne sont que des interdictions.
Le parc des Calanques est un parc périurbain. C'est le troisième au monde, je crois, après Sydney et Cape Town. C'était donc un haut lieu de promenade pour la population marseillaise et des villes alentours. Et ce sont ces activités-là, simplement de promenade, qui sont remises en question par ce parc. Vous avez évoqué précédemment le parc du Mercantour où les activités de transhumance, d'élevage bovin, ovin sont remises en question. Vous avez évoqué également les parcs d'Afrique dans lesquels les braconniers et les trafiquants s'en donnent à cœur joie et déciment les populations animales. Françoise de Gère, le portrait que vous dressez des parcs nationaux est celui d'une sorte de désorganisation, comme si on vidait ces territoires, comme si on les vidait des autorités locales, celles qui sont les autorités traditionnelles, comme si on les vidait de leurs activités traditionnelles. également, mais dans quel but et à quoi bon ?
Oui, c'est effectivement, le parc national détruit les activités traditionnelles, que ce soit par exemple, je pense, à la Petite Plaisance du côté de Marseille. Donc la Petite Plaisance induit des petits ateliers de réparation, etc. Bon. Là, si c'est la Plaisance de luxe, ils iront directement dans les anciens chantiers navals de la Ciotat où ils ont un ascenseur pour réparer les yachts. Hein. Donc tous ces petits ateliers de réparation vont disparaître. Le parc national détruit ce genre de petites activités, de petites entreprises qui ne répondent pas aux normes. Et par contre, il favorise l'industrie de luxe, l'industrie du tourisme de luxe. Dans tous les parcs nationaux, j'ai vu ce phénomène. J'étais dans un parc national en Amérique latine. J'ai été voir les chutes d'Iguassu. J'ai payé pour une nuit et deux jours $900. On s'est régalé, mais quand même. D'ailleurs, du côté argentin, il nous expliquait qu'il y avait quand même un problème avec toute cette fréquentation, cette surfréquentation touristique. C'est que, je me souviens très bien que j'avais posé mon sac par terre, j'avais des pommes, et il y a des guaquis, des espèces de petits rongeurs qui sont arrivés et qui se sont servis dans mon sac. Et les guaquis, c'est le mets de prédilection des pumas. Et les Argentins étaient très inquiets parce qu'ils disaient maintenant que les guaquis ont l'odeur de l'homme, les pumas vont risquer d'attaquer les hommes. Voilà. Donc quand même $900 la promenade.
Au-delà de cette manne touristique, Françoise de Gers, les parcs nationaux sont devenus des territoires extrêmement convoités à l'échelle internationale.
Ils sont très convoités. Alors, je veux dire, il y a plusieurs échelles dans le parc national. Il y a la marchandisation du territoire pour le tourisme, au profit du tourisme. Ça, c'est très clair. Il y a aussi, maintenant, il y a les investissements financiers, d'abord par le marché carbone. Donc, on essaye de les faire rentrer dans le système RED. C'est ainsi que le parc national bolivien Noël Kampf bénéficie de crédits carbone, le financement de crédit carbone. La nouveauté, c'est que ça n'est plus une ONG américaine, je crois que c'est Conservation International qui s'en occupait, c'est maintenant directement le gouvernement de Bolivie qui a repris la main sur ce territoire dans la gestion du système RED.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, concrètement, ce que ça implique ?
C'est-à-dire que ça donne déjà une valeur financière au parc, parce qu'il faut, s'il y a un investissement financier, il faut déjà savoir combien ça vaut, combien de crédits vont être investis dans ce parc.
Donc le gouvernement bolivien touche de l'argent sur ce parc, en échange de quoi ?
De simplement de maintenir la biodiversité. Conserver le parc. Voilà. Je ne sais plus dans quelles conditions a été créé ce parc. Je crois qu'il a été créé avant 2000, il me semble. Je ne sais pas si c'était sous la dictature. Je ne me souviens plus très bien. Il y a eu un problème en Bolivie de dette à cette époque. Et il y a eu un échange dette contre nature. Et je pense que le parc... je me demande si ce parc n'a pas été créé à cette occasion-là. C'est-à-dire que ce système créé par l'ONU permettait aux pays très surendettés, il y avait une vingtaine de pays surendettés, de ne pas payer en totalité, de ne pas reverser en totalité leurs dettes. En contrepartie, ils devaient préserver la biodiversité dans une aire protégée ou autrement. Voilà. Et je me demande si ça ne remonte pas à ça, en fait.
Mais est-ce que ça donne des droits sur ces espaces à d'autres que les gouvernements ou les populations locales ?
Le système RED permet aux entreprises d'investir elles-mêmes, puisque les crédits carbone sont attribués à des entreprises, donc ça peut être très bien des entreprises. Et c'est ce qui se passe à Madagascar avec, par exemple, Air France, qui investit par ce biais dans la protection de la nature, en disant, vous voyez, moi je m'exonère de ma pollution atmosphérique par mes avions, j'ai acheté des crédits carbone que j'investis à Madagascar dans des aires protégées.
Ce sont les mécanismes de compensation.
Ce sont les mécanismes de compensation, voilà. Et ça marche pour les parcs. D'ailleurs, la Banque mondiale le prévoit expressément. Hein, c'est dans un article 5 du mécanisme procédure habitat naturel. Dans son article 5, il est dit que partout c'est possible, les projets financés par la banque peuvent être... La banque ne prête son concours aux projets impliquant une dégradation significative d'habitat que s'il n'existe aucune alternative réaliste au projet à son emplacement. C'est-à-dire que la Banque mondiale entre dans le processus de compensation financière et, si vous voulez, elle intervient, elle aide des projets de développement, entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut être des projets industriels, à condition qu'il y ait une compensation en aire protégée avec. Voilà, c'est l'article 5 des procédures de la banque sur les habitats, la restauration.
Là encore, tout ça se fait au nom de la protection de l'environnement, Françoise De Geer.
Oui, tout ça se fait au nom de la conservation de l'environnement, de la protection de la nature. Et à Nagoya, il était prévu quand même que les objectifs d'Aichi, après... C'était 20% de terres protégées dans chaque pays.
Nagoya, c'est le protocole de Nagoya, 2010.
En 2010, oui. Et apparemment, bon, je pense qu'on y arrive en France. Je crois qu'on est à 17%, ce qui est déjà énorme. Avec, entre Natura 2000, les zones Natura 2000, les ZNIEF, etc. et les parcs nationaux, on arrive à 17% de terres protégées. Je ne pense pas que les parcs naturels régionaux entrent dans cette comptabilité. Mais quand ce sont des aires protégées comme ça, parcs nationaux, ZNIEF, forêts, des forêts protégées, ça entre dans les actifs naturels de la comptabilité nationale. Ça fait partie des actifs naturels. Quand on sait qu'en cas de dette, les pays vendent leurs actifs pour rembourser la dette, on peut s'inquiéter.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la réécouter ou la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez également notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Alain Joubert, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.